L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bon week-end sur BFM Business et bienvenue dans cet atelier numérique. Vous le savez, l'atelier numérique, chaque samedi, 16h, 18h, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno et à l'économie numérique. Ravi d'être en votre compagnie, bien sûr. Avec toute l'équipe de l'atelier qui est là, tout à l'heure nous retrouverons Lila Megraoua. À mes côtés, nous avons Mathilde Christiani, Jean de Chambure, Antoine Cyr. Messieurs, dames, bonjour.
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 Voilà, ils sont pas synchro, mais ils sont là. Hein, ne vous inquiétez pas, ils sont tous là. Et puis, nous avons aussi, du côté de l'atelier US, Guillaume Renoir, qui est là. Bonjour, Guillaume.
Bonjour, François.
On va le retrouver dans quelques instants, Guillaume, avec des news toutes fraîches de la Silicon Valley. Notre dico facétieux du net tout à l'heure avec Jean. On va s'arrêter à la lettre B, comme...
B comme bats.
Comme bats.
Oui, bon. Parce qu'en Chine, il faut être bats.
Ah ben oui, il y avait une chanson des années 80 là, t'es ok, t'es bats et tout, mais non, ouais. Ça veut plus rien dire. T'es in, bravo Antoine. Eh oui, Antoine, grand monsieur des années 80, 70.
Grand historien.
C'est grand historien, des grands tubes des années 80.
De l'écume des jours passés.
Tout à fait. Tout à l'heure, on ira aussi à l'Aura Technologies, on retrouvera notre enquête de l'atelier, on s'intéressera à l'open innovation dans les grandes sociétés. Vous verrez que c'est passionnant comment des grandes boîtes comme Orange, La Poste, etc., ERDF, intègrent des startups. On en parle tout à l'heure. On retrouvera aussi notre web stratégie. On s'intéressera à la stratégie digitale de l'île de la Réunion. J'aurais bien voulu faire ce sujet. Malheureusement, ce n'est pas moi. On retrouvera aussi notre passion selon Sanet. On évoquera la fin des objets connectés avec le papa des objets connectés. C'est Rafi Aladjian qui sera là, l'inventeur du Nabastag ou bien encore plus récemment de Mother. Il sera avec nous. Notre World Tour, direction le Mozambique, mais aussi à Amsterdam. La rédaction de ZeroNet.com tout à l'heure avec Eric Le Bourlou et le crash test d'Antoine. Alors Antoine, tout à l'heure, on va parler d'un sujet un peu, j'allais dire léger.
Bah, c'est un sujet qui s'approche, qui va être de plus en plus de saison.
Oui.
Du moins, c'est ce qu'on espère.
C'est vrai.
Puisque ça va être le bikini. Alors, il n'est pas impossible quand, je sais pas, ça fait quoi, 13, 14 ans qu'on fait cette émission.
Ça commence à faire quelques années.
Et oui, parce que les nouvelles technologies, elles évoluent.
Bien sûr. Voilà.
Et donc, il est possible que j'ai déjà abordé ce sujet, le sujet du bikini. Mais, il n'y avait pas à l'époque de bikini connecté.
Et ça change tout.
Donc, voilà, maintenant il y a des bikinis connectés et donc le crash test est complètement transformé et donc il était important d'actualiser nos connaissances sur ce sujet.
Oui, tout à fait. Heureusement qu'il n'y a pas d'image et que ce n'est qu'une émission de radio. Imaginez si le crash test était en plus imagé avec des bikinis pendant 8 minutes. Ça ferait beaucoup quand même, hein.
Mais non.
Enfin, sauf s'il est connecté, bien sûr. Là, il y a quand même une dimension technologique intéressante. Voilà, soyez les bienvenus. C'est l'atelier numérique sur BFM Business. On commence par l'actu vue par toute l'équipe de l'atelier. Et on commence par Mathilde Kihorn, qui a un très très beau t-shirt jaune, couleur été, couleur soleil, qui lui va très bien.
Spécial radio.
Spécial radio, c'est vrai.
Exactement.
Qu'est-ce que vous avez pour nous, Mathilde ?
Eh bien, j'avais envie de vous proposer deux applications qui répondent à des problématiques qui nous ont tous énormément préoccupés et qui vont peut-être enfin trouver un aboutissement. Le fait d'envoyer des messages, SMS ou mails qu'on regrette amèrement une fois qu'on les a envoyés ou dont on aimerait qu'ils disparaissent, peut-être, juste après avoir été lu. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, François.
Vous voulez dire un SMS sur un coup de tête, quoi. Une insulte, un non alors qu'il fallait dire oui. Un truc comme
oui,
ça.
Voilà,
c'est pour la sphère perso.
C'est un des cas de figure, oui.
Exactement, ça, c'en est un.
Ouais.
Ou alors, vous envoyez un mail sous un coup d'énervement à un collaborateur, et puis en fait, bon, après t'être posé, vous dites que peut-être que c'était peut-être pas si indispensable.
Ouais.
Ou alors, tout simplement, des documents confidentiels qu'il faut absolument envoyer, mais vous préféreriez ne pas voir traîner.
Oui. Ou on se trompe de destinataire d'un document confidentiel.
Exactement.
Ça arrive dans les entreprises.
Ah bah oui.
Vous savez que par exemple dans les entreprises, vous avez des messages, les messageries. Bah forcément, il y a un énorme annuaire de l'entreprise.
Et bien sûr.
Et donc de temps en temps, vous avez un document confidentiel. Et donc vous cliquez, vous faites pas attention
et
vous
là,
l'envoyez à un homonyme ou à un presque homonyme.
Ouais.
Bon,
ouais.
C'est à l'intérieur de l'entreprise. D'accord, mais il y a tout de même des documents qui sont confidentiels. Quoi.
Pas forcément à l'intérieur de l'entreprise, parce que parfois, quand on commence à écrire le prénom,
oui.
Et que par exemple sur Gmail,
oui,
on
oui.
vous propose quelqu'un avec le même prénom, vous faites pas attention, mais en fait, c'est quelqu'un d'autre.
Ça part,
oui. Ça part. Voilà.
Ça peut quand même être très très embêtant parce qu'il peut y avoir des informations confidentielles
ça
sur les gens.
Ça vous est jamais arrivé, ça, Antoine.
Ça m'est jamais arrivé dans des conditions graves.
Voilà. Très bien.
Alors il y a donc, ça. Il y a d'autres problématiques aussi qu'on va aborder. Mais pour ça, effectivement, il y a Gmail qui proposait On Second Thought, où justement, vous pouvez juste après avoir envoyé un mail dans les quelques secondes
annuler ce mail. En voilà.
Alors sur E89 ils en parlent, ils disent que bon ça bug pas mal, pour l'instant c'est en bêta, qu'après ce sera une application qui sera proposée à $2 par mois.
Ça marche très bien, il y a juste un truc, c'est que ça pulvérise toute la mémoire de votre ordinateur sur les 4 années précédentes.
Vous n'êtes pas loin, il paraît que ça pulvérise un petit peu toute la base de contacts. Donc ça peut être un léger problème, voilà. Donc ça c'est effectivement les mails qu'on envoyait et qu'on aurait aimé ne jamais envoyer. Il y a aussi les mails confidentiels qu'on aimerait pouvoir détruire juste après lecture. Alors je ne sais pas si vous connaissez, il y a une start-up qui s'est lancée qui s'appelle Confidential CC et qui propose cet email qui s'auto-détruit après lecture. Et donc en fait, c'est une application qui s'ajoute sur tous les serveurs mail et donc vous aurez le CCC. Et si vous le programmez, le mail que vous avez envoyé, une fois qu'il a été lu une fois, eh bien, s'efface. Et il n'est pas possible d'imprimer. Il n'est pas possible de faire des captures d'écran parce que, attention, ils sont filous. Les informations ne s'affichent sur le mobile, par exemple, que si vous avez le doigt qui presse l'écran du téléphone.
Ah, ouais.
Donc, vous ne pouvez pas faire de capture d'écran, par exemple. Si quand même vous avez réussi, en tenant de votre main gauche, voilà, l'écran,
à
faire une capture, et ben, hop, la personne qui a envoyé le mail reçoit une notification comme quoi une capture a été faite.
Oh là là.
Et le mail s'efface d'un coup.
Oh mon
attention.
Dieu.
Voilà.
Mais c'est mission impossible, en fait, ce truc-là.
Il faut vraiment le vouloir, à ce moment-là, pour le faire. Donc après, je sais pas si on a à ce point besoin d'envoyer des messages confidentiels, mais il y a ça. Et dernière petite chose, je sais pas si vous avez aussi testé Telegram, donc c'est un peu le Snapchat mais de la messagerie instantanée. Donc là pareil, vous pouvez vous envoyer plein de messages instantanés puis vous décidez qu'ils vont s'effacer au bout de 3, 5, 7, 15, 20 secondes. C'est super stressant.
Voilà. Et oui, il faut vite. En tout cas, pour celui qui les reçoit.
Oui.
Dans combien de temps ça va s'effacer?
Et puis ça montre qu'on n'a plus de mémoire. On lit, on est dans un stress total et on oublie direct après ce qui s'est échangé.
Antoine.
Alors, aux États-Unis, il y a une agence qui s'appelle la DATS. À ne pas confondre avec la DAS.
Non, c'est pas la même
mais
chose.
Ça s'écrit presque pareil, mais il y a un deuxième D, donc c'est pour ça que ça fait DATS.
D'accord.
Donc c'est l'agence américaine en charge de la sécurité routière et qui a mis au point un système pour s'assurer que les automobilistes, disons un peu alcoolisés, soient empêchés de conduire. Alors le principe, c'est très simple. Si vous êtes ivre, votre voiture ne va pas démarrer. Le système consiste en un éthylotest qui est monté soit sur le volant ou sur la portière conducteur et puis d'un capteur puisqu'il va être intégré par exemple à l'allumage de la voiture. Donc l'éthylotest repère si vous êtes alcoolisé, si vous êtes au-dessus de la limite légale qui est de 0,8 g aux États-Unis, eh bien pas de démarrage possible de la voiture.
Donc on dort dans la voiture à ce moment-là.
Oui, par exemple, vous attendez. Alors le système en plus est modulable pour baisser la tolérance à zéro dans le cas de jeunes conducteurs.
Ah oui, parce que bien évidemment, quand on est jeune conducteur, là, il n'y a pas les 0,8.
Exactement.
Là, y a rien du tout.
Exactement.
D'accord, pas mal. Bon. Mon cher Jean, quelle est votre news en ce samedi après-midi?
Eh bien, écoutez-moi, c'est une news chinoise.
Ah.
Et oui, vous avez bien compris, là, je suis de plus en plus chinois. Alors, pourquoi? Parce que nous avons notre ami qui est un géant chinois, qui s'appelle Baidu. Vous savez, Baidu, c'est le Google.
Ah oui, Baidu, c'est un ami
costaud.
C'est un ami musclé.
Oui,
hein.
Mais il faut avoir des amis costauds, c'est important dans la vie. Oui. Alors, surtout quand c'est le Google chinois. Alors, pourquoi est-ce que Baidu nous intéresse? Eh bien, parce que il est en train, progressivement, de faire un peu une sorte de Google X, c'est-à-dire qu'il développe en R&D un certain nombre de sujets qui dépassent vraiment sa sphère, qui est le cœur de son métier, c'est-à-dire la recherche algorithmique d'idéogramme, et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement forts. Mm-hmm. Ils sont plus forts que d'autres moteurs de recherche qui fonctionnent plutôt par mots-clés mots-clés occidentaux, quoi. Bon. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se sont lancés déjà dans la recherche de reconnaissance d'images, c'est un classique.
Oui.
Mais là aussi, et c'est très intéressant pour la Chine, ils sont en train de se lancer sur les voitures automatiques, des sortes de Google Car. Voilà, Baidu annonce ça pour le second semestre de cette année. On ne sait pas qui va être partenaire. Ils ont déjà fait des tests avec BMW, donc pourquoi pas. Mais voilà, ça peut être évidemment à l'échelle de la Chine quelque chose de gigantesque. Et c'est très intéressant que Baidu se positionne sur ce sujet.
C'est étonnant donc qu'il reste il marche ça, quand même sur les traces de Google, hein.
Oui,
sur
oui,
pas
oui,
mal
oui,
de choses.
Il marche sur les traces, mais écoutez, je ne connais pas assez encore la Chine pour bien vous en parler. Renault le connaît mieux, mais j'ai le sentiment qu'à chaque fois, ils font plus que copier.
Oui, et puis ils apportent, quand même.
Ils adaptent,
chose, bien évidemment.
Et du coup, ils innovent avec quelque chose d'un peu différent. Parce que là, voilà,
c'est pas encore. Ils s'inspirent de l'Occident, ils le touillent pour en faire quelque chose à la sauce chinoise.
N'oublions pas quand même que pendant des millénaires, nous avons copié la Chine. N'oublions pas ça.
Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, maintenant, donc, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de temps en temps de jeter un œil sur ce qu'on fait, hein.
Ah oui.
Direction maintenant les États-Unis, l'atelier US, la Silicon Valley avec vous, Guillaume Renoir.
Oui, alors j'imagine que vous avez tous entendu parler d'Apple Music qui a été présenté en début de semaine.
Oui.
Donc oui, moi je voulais profiter de ma position d'agent infiltré dans la Silicon Valley pour vous donner les réactions à chaud sur place. Donc globalement, on oscille entre enthousiasme, méfiance et réserve. Enthousiasme d'abord chez Danny Kaye, qui est le fondateur d'un gros label de musique électronique américain qui s'appelle Alpha Pulp Records et qui affirme sur sa page Twitter espérer le succès d'Apple Music, ajoutant que nous n'avons pas eu de réseau social performant consacré à la musique depuis MySpace. Il doute en revanche que ce nouvel entrant améliore les revenus des artistes. Enthousiasme apparemment partagé par RDO, qui est un service musical en ligne basé à San Francisco. Et alors lui qui choisit de se montrer fair-play en souhaitant bonne chance à son nouveau concurrent sur sa page Twitter également. Alors chez les autres concurrents, le ton est un peu plus balancé. On a Mike Ehring qui est le CFO de Pandora, un site qui permet de composer ses propres radios en ligne, qui lui voit dans ce lancement la preuve que le marché est prospère et florissant, donc plutôt une bonne nouvelle. Mais il prend aussi bien soin de préciser qu'il a confiance en l'originalité et donc en la pérennité de son modèle par rapport à Apple. Petit frayeur quand même. Et on a aussi Rhapsody, un autre concurrent, qui quant à lui rappelle subtilement que son service reste 25% moins cher que celui d'Apple, puisque passé les premiers mois gratuits, la marque à la pomme facturera $10 par mois.
Ouais. C'est-à-dire que tout le monde réagit en disant c'est super, mais tout le monde tacle un peu Apple au passage quand même. Hein.
Voilà, c'est exactement ça. Et alors il y a aussi quelques sceptiques, comme le blog Above Avalon, qui est d'ordinaire plutôt enthousiaste sur Apple, mais qui là dit que l'absence d'offres gratuites, puisque Apple Music sera exclusivement payant, risque de rendre la concurrence avec YouTube un peu difficile. Donc voilà pour le petit tour d'horizon californien.
Voilà, alors pour tous ceux qui n'auraient pas suivi les annonces d'Apple qui sont arrivées cette semaine, hein, donc Apple lance son service de musique par abonnement, un peu comme Deezer et Spotify, c'est-à-dire que pour 10€, vous avez accédé à des dizaines de millions de titres que vous pouvez soit écouter en streaming, soit télécharger sur la mémoire de votre iPhone, avec une offre intéressante pour les familles, puisque en fait, pour $15, vous pouvez avoir 6 comptes différents qui tournent dans la même famille. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est ça la grosse innovation. Et puis l'autre innovation de ce service, c'est que Apple vous offre 3 mois gratuits, ce qui n'était jamais arrivé dans un service de musique par abonnement. En général, c'est 1 mois, donc là, Apple vous offre 3 mois, vous avez le temps de faire vos playlists, de goûter au service, et puis après, ben, vous êtes piégé et vous vous abonnez, quoi.
C'est l'avènement de plus en plus du streaming, surtout. On voit que
évidemment,
le streaming est en train de.
Et donc, si je paye pas au bout de 3 mois, ma playlist se désintègre.
Votre playlist se désintègre, et vous aussi, d'ailleurs. Antoine, c'est ça le problème. Mais bon.
Bon, ça, c'est moins grave.
Oh non, ça serait quand même grave. Comment on ferait pour vous remplacer? Vous vous rendez compte? Ça sera terrible.
Vous êtes trop gentil.
Merci Guillaume. Allez, encore un petit tour de table. On a encore quelques minutes avec vous Mathilde.
Oui, hier c'était l'inauguration de la Cité des objets connectés à Angers.
Oui.
On va en parler notamment tout à l'heure avec La Poste, et un des secteurs où les objets connectés ont beaucoup de potentiel, c'est notamment dans l'industrie. Et on était au Pioneers Festival il y a quelques semaines à l'atelier, et on a rencontré la start-up Proglove, et qui en fait propose un gant connecté qui est...
Un gant
bah tout
oui,
à
c'est
fait.
Pour ça que ça s'appelle Proglove.
Et voilà, tout à fait.
Bravo.
On est bilingue dans l'atelier numérique.
Ouais. C'est beau.
Parce
n'est-ce
que glove, ça veut dire gant.
Ah, je crois que c'était pro. Voilà. Pardon.
Explication.
Après, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils disent glove.
Et pro, je pense que c'est pour professionnel.
Ouais.
Je ne sais pas.
Et alors, il sert à quoi ce gant?
Eh bien, en fait, il est truffé de capteurs et d'une puce RFID. Vous l'enfilez quand vous travaillez dans l'industrie. Mm-hmm. Et ça enregistre tous vos gestes. Alors, c'est évidemment pour améliorer la productivité. Ce que ça peut indiquer après, évidemment, ça regarde sur une semaine tous les gestes qui ont été faits. Ça peut vous aider à voir ceux qui ont été inutiles ou comment faire mieux ceci ou cela. Mais aussi, si jamais les gestes que vous êtes en train de faire peuvent amener à une action qui peut être dans dangereuse, ça permet de vous le notifier en amont et donc de régler voilà, tout problème. D'accord. Donc les métiers qui peuvent être dangereux dans l'industrie, ça peut, je pense, là, avoir un intérêt particulier.
D'accord. Très bien.
C'est une start-up munichoise.
Voilà, ProGlove. Antoine.
Moi, je vous propose une petite bouteille connectée.
Ah, oh, ben voilà. Voilà. C'est juste avant de se mettre en bouche avec le bikini.
Voilà, qui appelle à s'hydrater. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'on ait besoin de s'hydrater. Il peut faire chaud, on peut ne pas avoir bu depuis longtemps, donc forcément, c'est
ça,
vrai.
Oui, ouais, parce que là, c'est, ça va.
J'allais dire, c'est pas bête. Oui, c'est vrai, hein.
Oui. On peut avoir bu de l'alcool.
Non.
Si. Ah vous oui. savez que quand on a bu de l'alcool, il faut s'hydrater.
Ah ben voilà.
Voilà. Alors il y a c'est des ça. Gens qui, si vous voulez, qui se débrouillent pour s'hydrater en buvant en permanence.
Voilà.
Voilà.
C'est
voilà.
Ça.
Mais non, non,
c'est pas l'idée.
Normalement, ça marche pas. Bon. Et donc il y a une data analyste qui s'appelle Nadia Nguyen qui a eu l'idée de créer la bouteille Hydrate Me ou Hydrate Me qui est doté d'un capteur qui par connexion Bluetooth communique avec une appli dédiée et donc l'appli tout simplement enregistre ce que vous avez bu après avoir fait une estimation de la quantité nécessaire à votre physiologie en fonction de votre poids, de votre taille et de l'endroit où vous habitez et probablement du temps qu'il y
oui,
fait.
Oui, voilà, du climat, bien
voilà.
sûr. C'est pas mal ça.
Voilà.
Voilà. Mais donc, il faut boire toujours dans la même bouteille, parce
ah
que
ben
c'est
oui.
elle qui...
Ah ben, c'est elle qui commande.
Vous n'avez pas le droit de boire, par exemple, une autre canette.
Ben, ça fausse tout.
Voilà, ça fausse tout. Et là, c'est beaucoup moins bien d'un coup.
Ben oui.
Très bien. Voilà. Bon, ben écoutez, on va revenir dans un instant, les amis. La suite de l'atelier numérique, c'est dans une minute, avec, au menu, le dico facétieux du net de Jean de Chambure et le gadgeto d'Antoine. Rien que du bon. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Quels sont les gadgets qu'Antoine Cyr a sélectionnés pour nous ? Là, vous n'en pouvez plus. Le suspense est terrifiant. Vous allez avoir la réponse dans quelques minutes. Mais auparavant, c'est le dico facétieux du net de Jean de Chambure. Jean de Chambure qui a décidé cette semaine... Jean, vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Vous vous arrêtez sur la lettre B.
Oui.
B comme bat.
Voilà, B comme BAT, François. En fait, ce qu'il y a de facétieux là-dedans, c'est essentiellement ce nom de BAT, cet acronyme, parce qu'après, vous allez voir que c'est du sérieux, c'est du lourd, c'est du digital. On connaît assez bien le nom de GAFA, hein, les fameux
oui,
Google,
GAFA,
Amazon,
bien.
Facebook.
Voilà.
Alors, bon, Apple, bien entendu.
Voilà, GAFA. Hein.
Bon, GAFA. Eh bien, en Chine, ce sont les BAT.
Ah. Alors,
qui sont les BAT, pour faire très
ça
simple.
Ça n'a rien à voir avec Batman.
Ça n'a rien à voir avec Batman, mais c'est quelque part un peu les héros de l'Internet chinois. Donc, les BAT,
donc,
ce sont Baidu.
Le B.
Donc, le B, ça, c'est le grand moteur de recherche chinois. Alibaba. Alors, Alibaba, c'est plein de sites. C'est juste 80% du e-commerce en Chine. Donc, c'est un
c'est
immense
écrasant.
Géant.
Amazon à côté, c'est. Bah,
c'est une
start-up. D'accord.
En seed.
Voilà. Bon.
Et puis, le dernier, c'est Tencent. Alors, Tencent, c'est le nom, en fait, de sites hyper connus en Chine. Et qui marchent aussi, d'ailleurs, en dehors de Chine. Comme WeChat, par exemple. Hein. Donc, ça, c'est une sorte de Snapchat, en fait. Comme QQ. Enfin, voilà, tous ces sites de messagerie instantanée. Mais vous pouvez mettre plein de trucs dans WeChat. Vous pouvez mettre des présentations, des photos, des vidéos, enfin voilà, c'est un super outil.
Donc c'est chinois,
c'est chinois, voilà.
Oui.
Et bah, finalement, ça représente assez bien l'écosystème chinois, c'est-à-dire que à partir de ces géants-là vont venir se greffer des tas de start-up comme des chauves-souris, c'est le grand bat, hein. Et puis après il y a des tas de petites chauves-souris très agiles qui viennent se greffer, des spécialistes par exemple de WeChat qui vont proposer du marketing à des entreprises qui veulent développer un contenu de marque sur WeChat, des spécialistes évidemment en référencement sur Baidu parce que c'est des techniques un peu particulières, il y a des façons de faire. D'ailleurs Baidu à un moment donné a été un peu attaqué sur ce thème-là parce qu'il avait un peu tronqué sa première page de recherche naturelle. Aujourd'hui, ils sont revenus à des critères extrêmement sobres, extrêmement sereins. Et puis, évidemment, Alibaba ne marche que parce que derrière, c'est du B2B quand même, encore. Hein, c'est-à-dire qu'il y a énormément de cybercommerçants qui sont, un peu comme on peut l'être sur Amazon ou sur eBay, là, présents pour proposer leurs services.
Oui, c'est ce qu'on appelle le marketplace.
C'est des marketplaces, voilà. C'est
voilà, tout simplement. Et Alibaba a du marketplace aussi, comme Amazon, la
Exactement.
Fnac, etc.
Ce qu'on connaît un petit peu moins chez les BAT, je ne résiste pas à ces noms parce qu'ils méritent d'être connus, ils méritent d'être entendus. Robin Lee, voilà, comme Robin des Bois, donc fondateur de Baidu 2000. Jack Ma, alors, il est plus connu, déjà un peu plus connu en dehors de Chine, hein, puisqu'il a, il invente constamment des choses, notamment inventé le smile toupet, ça je trouve ça est génial. Si vous souriez, vous pouvez piller. Je trouve ça extraordinaire comme idée. Et puis, bien sûr.
Bon, même si on sourit jaune, ça marche.
Oui,
en fait.
Mais l'idée, déjà, cette idée d'avoir l'idée de ça, oui, de proposer, oui. Je trouve ça génial.
C'est vrai.
Et puis, Ma Wateng. Donc lui, 1998, fondateur un peu plus ancien de Tencent. Voilà, ces trois héros de l'internet chinois, les battent.
Voilà, retenez ça. Hein, c'est les, là, c'est le BABA. GAFA à l'ouest, ouais. BAT à l'est.
BAT à l'est.
C'est
voilà.
Ça, hein.
Exactement.
On est d'accord.
Le fariste.
Très bien. Merci beaucoup, Jean de Chambure. Antoine.
Alors, est-ce que vous vous souvenez de Terminator et notamment de Terminator 2
Est-ce que c'est le pouce qui s'en va? Et
oui,
alors, fondu.
Et oui, alors, c'est le oui, pouce fondu.
Ça, c'était formidable, l'image de fin.
Ah oui,
voilà,
oui.
C'est extraordinaire. Et donc, dedans.
Pauvre Antoine de dire, mais. Et son grand cinéphile d'Antoine de dire, mais quelle horreur.
Nous, on connaît la fin de Terminator 2.
Non, mais c'est très, très bien. Et donc, il y a dans Terminator 2, il y a le T-1000. Et donc, le T-1000, c'est vraiment le Terminator ultime, quoi. C'est celui qui a la capacité de se liquéfier, voilà, etc. Et donc, évidemment, cette capacité de se liquéfier lui permet aussi de se réparer lui-même. C'est d'ailleurs la capacité des Terminators, c'est d'être interminable, oui. Finalement.
Oui. Et d'ailleurs, dans le scénario du Terminator 2, le T-1000 est indestructible.
Indestructible. Et
en théorie.
Fois, et à chaque, ouais, mais à chaque fois, on croit qu'il est détruit,
oui.
Et puis il se réveille.
Et puis il revient. Oui, c'est ça.
De liquide comme ça qui parcourt le sol.
Tout à fait.
Super. C'est un bon film quand même, Terminator 2.
C'est un sacré bon film. Le Terminator 1 aussi, d'ailleurs.
Ah oui, très bien.
Mais
Terminator 2 avait eu beaucoup plus de moyens, en fait.
Oui, mais Terminator 2, il y a. Mais c'est des très, très, très bons films. Oui.
Très bien fait.
Voilà.
Vous nous faites une intro alléchante sur votre gadgetto et on connaît pas la fin.
Mais je vais vous la donner quand même. Voilà. Allez, parce que c'est samedi aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai.
Alors, donc en fait, c'est tout simplement une matière qui s'auto-répare. Donc on n'est pas tout à fait dans le T-1000, mais donc il y a une équipe de chercheurs qui est en train de trouver donc cette matière qui s'auto-répare, c'est une matière qui est en fait capable de boucher des fissures pour l'instant. C'est-à-dire, il peut y avoir des ailes d'avion, il peut y avoir des. Alors, une aile d'avion qui se fissure.
Oula, c'est un peu. Enfin, une aile d'avion qui se fissure, moi, ça me fait un peu flipper quand même.
Non, mais. Même
si on me dit, t'inquiète pas, elle se répare.
Non.
Vous êtes sûr, vous voulez pas jeter un œil quand même?
Non, c'est pas ça. Non, mais. Il y a sûrement, je pense que dans les ailes d'avion, il peut y avoir des micro-fissures, des trucs, etc.
Bien sûr.
Mais on y fait très attention, effectivement. Mais donc, l'idée, c'est des chercheurs de l'université de Bristol, qui se sont dit que, au fond, on pourrait quand même avoir l'idée de matière qui s'auto-répare, notamment quand il y a des risques de fissures. C'est-à-dire, on comprend bien qu'on n'en est pas encore à inventer la matière qui va, si vous coupez l'aile en deux,
se reconstruire et
reconstruire une deuxième aile.
Non, c'est pas le T-1000, quoi.
Non. En revanche, l'idée, c'est d'avoir une matière qui est donc composée d'une matière synthétique, qui est composée de microsphères creuses de carbone, qui, lors d'un impact, donc, libère un liquide qui s'infiltre dans les fissures et qui durcit au contact d'un catalyseur.
Très intéressant.
Et c'est la cicatrisation.
Et donc, c'est exactement ça. L'équipe de l'université de Bristol s'est inspirée du corps humain. Le professeur Wass, qui est donc l'un des inventeurs de ce dispositif.
Ah, bravo, monsieur
Wass.
Bravo, Wass.
Hein, voilà. si nous blessons, nous saignons, et puis une croûte se forme et la blessure guérit. Voilà, donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il a dit, nous avons juste appliqué cette capacité à une matière synthétique, nous aurons des choses, des objets qui se guérissent d'elles-mêmes.
Ouais.
Voilà. Il y a eu une réunion là très récemment, le 6 juin, qui donc a été appliquée très clairement à une aile d'avion. Voilà.
Bon, alors vous savez quoi ? Moi j'ai vu un téléphone portable dont le dos
se réparer lui-même.
S'auto-réparer lorsque, par exemple, avec des clés, vous faites des petites rayures.
Oui.
Ah
oui.
Ben voilà. Donc, vous le mettez un petit peu à la chaleur.
Oui.
Et en fait, ces rayures disparaissent, s'auto-réparent en quelque sorte.
Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il fasse ça avec
Le problème, c'est que moi, j'ai voulu le tester.
Avec
j'ai fait des rayures trop grosses.
Ouais.
Et c'est déjà plus parti.
Ce serait bien qu'il fasse ça avec les écrans.
Ou avec les pare-chocs.
Mais je crois que c'est déjà un peu le cas.
Les écrans smartphones qui sont de plus en plus miniaturisés, etc., qui sont quand même, une fois qu'ils sont cassés,
Oui, ça serait bien qu'ils s'auto-réparent.
Ah, bah oui, ça, c'est une vraie invention.
Oui. Bah écoutez, on posera la question à Apple et à tous les autres, Samsung, etc. Messieurs, on revient dans un instant, la suite de l'atelier. Nous retrouverons notre enquête de l'atelier et puis Lila Megraoua qui va nous faire découvrir Eura Technologies dans le Nord. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, c'est l'atelier numérique sur BFM Business. Notre enquête de l'atelier dans quelques minutes. On parlera d'open innovation et de grands groupes avec Mathilde Christiani et nos invités. Mais dans l'immédiat, avec vous, Lila Megraoua, c'est notre tour à l'Eura Technologie cette semaine.
Oui, exactement, qui a fêté plus de 5 ans, il me semble. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir Raouti Chehi. Bonjour.
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 Vous êtes directeur général d'Eura Technologies, énorme parc d'activités et accélérateur situé à Lille. Vous êtes considéré comme le troisième incubateur européen le plus important et le premier français, considéré également comme un ovni. Qu'est-ce qui rend cet accélérateur si spécial, Raouti?
Bah, tout d'abord, merci de m'inviter. Ce qui fait cet accélérateur un endroit et un projet si spécial, c'est que il s'adresse à de vrais gens, c'est-à-dire que il s'adresse avant tout à des entrepreneurs, des gens qui ont aujourd'hui envie d'amener une solution, un produit ou un service sur un marché dans le secteur des nouvelles technologies et amener en fait une solution à des problèmes que rencontreraient des clients. Donc c'est en ça qu'il est particulier, il s'adresse à un vrai marché.
Pour se représenter, c'est à la fois quoi, un accélérateur de start-up, un lieu de recherche, de rencontre.
C'est d'abord un lieu qui fait 100 hectares, situé à toute proximité du centre-ville de Lille. Des entreprises, on en a 140 aujourd'hui, on en a fait passer 250 depuis 5 ans. On a fait à peu près une centaine de millions d'euros de levée de fonds depuis 5 ans. C'est à peu près 3000 personnes qui travaillent là-bas chaque jour.
Mmh.
Et puis c'est une vision à horizon, on va dire, les 5 prochaines années, de 500 entreprises pour 10 000 personnes qui travailleraient. Et on y retrouve toutes les composantes de l'économie numérique, de la start-up au grand groupe, en passant par les fonds d'investissement, les universités, les centres de recherche. Et c'est cette particularité-là, l'hyper-proximité des gens et la capacité qu'ils ont à pouvoir co-créer ensemble les entreprises du futur.
Alors, la région lilloise reste quand même une région importante pour le textile. Est-ce que vous entretenez ces relations entre vos start-up et l'industrie du textile?
C'est vraiment une très très bonne question parce que c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on favorise la rencontre entre ceux qui créent les entreprises et ceux qui aujourd'hui ont besoin de solutions technologiques, c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. Je sais que vous avez parlé de grands groupes tout à l'heure. L'open innovation avec les grands groupes, on fait ça tous les jours et dans les secteurs d'activité avec des verticales comme le textile, la santé, le transport, le retail qui est une puissance très forte dans notre région. Donc on essaye justement de venir de manière transversale amener des solutions technologiques en produits ou en services à des industries dites plus traditionnelles et le textile en fait partie.
Aujourd'hui, Eura Technologies, il me semble que c'est ça représente plus ou moins 3500 emplois créés grâce à cet endroit. C'est bien ça?
Exactement. On a commencé il y a 5 ans maintenant. Il n'y avait rien. Donc, on avait juste une friche, l'ancienne usine textile, où il y avait 4000 salariés qui travaillaient chaque jour. L'usine a fermé en 89 et pendant 20 ans, il a fallu se réinventer. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti de cette usine qui fait à peu près 30 000 mètres carrés aujourd'hui pour en créer un gros incubateur dans le secteur du numérique. Et l'idée, c'était de montrer la transition entre les industries dites traditionnelles, le textile en l'occurrence, et les industries du futur, notamment le numérique. Tout ça soutenu, bien sûr, par les pouvoirs publics locaux, la région, la communauté urbaine et la ville de Lille, qui ont mis des moyens pour amorcer la pompe. Et aujourd'hui, le modèle est en train de porter ses fruits et notamment est en train d'être pris en charge et pris en relais par le privé. Aujourd'hui, c'est 3000 à 3500 personnes qui travaillent là chaque jour. On en a perdu 4000 dans le textile, on est déjà à 3500 dans le numérique. Et l'idée, c'est de trouver un peu les effectifs et d'arriver à 8000.
Raouti Chehi, merci. Je rappelle, vous êtes directeur général d'Eura Technologies. Merci.
Voilà, Lila Megraoua, merci. Et place maintenant notre enquête de l'atelier. Une enquête pilotée par Mathilde Christiani. On va parler d'open innovation et de grands groupes aujourd'hui.
Oui, on va parler innovation ouverte, François. Alors, vous savez, on était partenaire du Web Today cette année, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Et j'ai animé une table ronde sur l'innovation ouverte. Et ben, on va poursuivre la discussion avec trois des intervenants avec qui on a discuté pendant l'événement. Donc, Patrice Slupowski, qui est le VP Digital Innovation chez Orange. Bonjour.
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 Jacob Artung, qui est directeur des ateliers numériques de RDF. Bonjour.
Bonjour.
Et Jérôme Toucheboeuf, qui est le président de Mediapost Communication et directeur du laboratoire innovation de La Poste. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le sujet, c'est innovation ouverte, évidemment, les initiatives menées par ces groupes, mais aussi comment est-ce qu'on commence à ressentir l'impact de ces processus en interne sur les salariés. On va peut-être déjà commencer avec ce que vous faites en termes d'initiatives d'open innovation, chacun, peut-être chez Orange, Patrice Slupowski.
Merci, à moi l'honneur. Donc, voilà. on fait beaucoup de choses. Le principe de l'open innovation, de toute façon, c'est jamais de se donner de limites ou de bornes. Donc, je pense qu'on est aujourd'hui impliqué depuis quelques années sur la plupart des leviers de l'open innovation, l'ouverture des API, le travail avec les startups, tout ce qui peut véritablement nous amener à innover autrement par rapport à la longue tradition d'innovation à l'intérieur de nos labs qu'on a toujours eu, même si on a toujours cherché à les ouvrir. On le fait d'autant plus maintenant à partir du moment où on a intégré tout ce qui concerne l'écosystème qui nous entoure.
Il y a une initiative qui est intéressante chez Orange, c'est que vous commencez aussi à mêler justement entrepreneurs et salariés via des espaces dédiés.
Oui, c'est en particulier un des bénéfices des Orange Fab, hein, qui sont les accélérateurs qu'on a maintenant dans 8 pôles d'innovation dans le monde, hein, aussi bien à Paris qu'à San Francisco, que dans les géographies où le groupe est présent, les géographies où le groupe est moins présent, mais qui sont des pôles d'innovation et qui nous donnent l'occasion d'accélérer, de mentorer, bref, d'échanger beaucoup avec des startups et donc de s'apporter mutuellement. De s'influencer, non seulement d'essayer d'apporter des choses par rapport au business de la start-up, à son produit, avec des choses que nous on sait bien faire, et aussi de faire évoluer la culture de nos salariés, de nos collaborateurs par cet effet d'entraînement.
Mmh. Jacob Artung, côté ERDF, l'innovation ouverte, vous l'abordez aussi via les ateliers numériques et pas l'atelier numérique.
Alors, il y a sans doute un lien entre les deux ateliers, en tout cas. C'est un très bon terme. Donc l'atelier, oui, c'est quelque chose de très concret. L'open innovation, nous en faisons depuis un certain temps chez RDF. On n'est peut-être pas aussi avancé qu'Orange, mais je pense qu'on est en train de les rattraper. Nous travaillons depuis longtemps avec des startups que nous essayons d'intégrer dans nos activités. On fait une vingtaine d'expérimentations avec des startups sur la dernière année. Et nous avons aussi lancé assez récemment un grand concours de start-up dans le cadre d'un des plans industriels de l'État sur les réseaux électriques intelligents, donc avec une activité qui est extrêmement forte, deux concours de start-up menés par chacune des 8 interrégions de RDF qui chacun porte un thème, le technicien 3.0 de demain, l'utilisation des big data pour la maintenance prédictive ou d'autres sujets de ce type dans lesquels on essaye de trouver de nouvelles opportunités. Avec finalement une spécificité que nous avons peut-être par rapport à d'autres groupe, c'est que nos métiers sont mal connus et on a besoin d'expliquer nos métiers à l'extérieur pour qu'on trouve des startups qui ont des solutions mais qui n'imaginent pas nécessairement qu'on puisse les utiliser pour nos métiers et pour nos besoins.
Donc vous, du coup, tout ce qui est innovation ouverte, c'est une opportunité aussi en termes de communication et compréhension du groupe ?
C'est une opportunité à la fois de communication, de compréhension du groupe et puis évidemment aussi d'amélioration de notre activité, de nos performances et de la qualité du service pour nos clients.
Et un moyen aussi de se régionaliser. Enfin, vous dites que justement à chaque région, un thème, pour le concours.
Alors, ERDF a un historique régional extrêmement fort, avec des vraies unités opérationnelles dans chaque région, et qui sont des unités qui sont au contact de l'innovation locale. Donc c'est quelque chose que nous faisons longtemps, et dans le cadre notamment de ce concours, oui, chaque région porte un thème au niveau national, et identifie l'ensemble des startups qui pourraient éventuellement répondre à nos besoins sur ces différents sujets pour les porter ensuite dans une finale nationale. Donc oui, chaque région est un élément important du dispositif.
Jérôme Toucheboeuf, La Poste est aussi bien ancrée sur le territoire. Est-ce que c'est dans cette optique-là aussi que vous avez commencé à préempter tout ce qui est innovation ouverte ?
Alors, on a développé pas mal d'activités, effectivement, dans tout ce qui est open innovation, open data, bien évidemment aussi. On a lancé une entité qui s'appelle Starting Post, qui a pour vocation d'accompagner, d'un point de vue industriel, les startups. Et puis on a une actualité récente, puisqu'on lance le programme French IoT, qui est effectivement l'ouverture d'un concours vis-à-vis des startups pour développer des objets connectés sur la base de notre hub numérique que nous avons lancé à Las Vegas il y a de ça 6 mois. Et aujourd'hui, donc, on fait appel à l'ensemble des startups, aussi bien en région, que ça soit en région Nord-Pas-de-Calais, que ça soit en région Aquitaine, dans la région Pays-Loire ou en région parisienne, pour développer des activités sur ces objets connectés.
Oui, ce programme, vous l'avez lancé à la Cité des objets connectés hier. Du coup, ça va, enfin, comment ça va se passer? C'est des startups qui vont travailler à Angers. Comment?
Alors, c'est un appel à concours pour développer des objets connectés qui se mettent sur notre hub numérique. L'objectif, c'est de d'identifier 100 startups qui peuvent développer ce type de projet et d'initier les différents champions, les 15 champions qui peuvent venir à Las Vegas en janvier prochain pour nous accompagner. Donc, notre objectif, c'est de les identifier en local, de les faire grandir au niveau national et au niveau international, de leur donner leur chance de se développer grâce à notre plateforme Le Numérique.
Ça fait globalement 3-4 ans qu'on parle vraiment d'innovation ouverte. Au début, on avait vraiment l'impression que c'était surtout faire de la veille, sentir un petit peu ce qui se passait du côté de cet écosystème start-up en train de disrupter les modèles établis. Là, tous les trois, vous avez des initiatives qui sont beaucoup plus dans l'opérationnel. Est-ce qu'on est passé dans une autre phase? Et qu'en attendent aujourd'hui les grands groupes? Est-ce que c'est sortir, proposer de nouveaux services ou est-ce que c'est explorer de nouvelles opportunités business? Peut-être Jacob Hartung.
Les deux, bien évidemment. Enfin, après, dans le cas de RDF, c'est un peu particulier puisque nous sommes un opérateur régulé avec une situation de quasi-monopole, donc on ne va pas développer de nouveaux business largement. Mais nous sommes dans une optique d'amélioration de notre qualité de service. Et de toute façon, pour la transition énergétique, nous devons absolument améliorer notre capacité à gérer de manière plus intelligente les réseaux, l'électricité et la consommation électrique. L'autre élément aussi, c'est finalement de faciliter le développement d'un écosystème qui pourra profiter des informations, des données, de notre capacité à gérer intelligemment ces réseaux. Mmh. Et c'est finalement aussi cet élément-là qui est dans une mission de service public pour nous, de faciliter le développement de nouvelles activités, de nouveaux acteurs et d'un nouvel écosystème qu'on travaille dans ce domaine-là. Et puis, en fait, oui, vous dites, est-ce qu'on est dans un niveau de maturité qui est différent ? Très certainement, on progresse, on comprend mieux comment il faut travailler avec ces acteurs. D'ailleurs, il y a de plus en plus aussi de start-up qui sont disponibles sur le marché pour ce type d'activité. Mais je pense qu'il faut quand même dire que ça reste difficile. Ça reste difficile de trouver les moyens de travailler entre la start-up et le grand groupe. Ça reste difficile de trouver les moyens contractuels pour le faire. Et même au niveau technologique, on a encore plein de progrès à faire. C'est un des sujets sur lesquels on travaille très activement pour que cette collaboration soit la plus efficace, la plus fluide et la plus intéressante pour tout le monde.
Jérôme Touchebœuf, est-ce que c'est un moyen aussi de faire de la R&D en accéléré et finalement d'être plus flexible en tant que grand groupe?
C'est à la fois le moyen de faire de la R&D, c'est aussi le moyen de faire du business et de faire bouger les lignes de nos business un petit peu comme ça a été dit précédemment. Je parlais précédemment de Starting Post. L'objectif, c'est pas d'accompagner des startups pour faire de l'argent. Ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner des startups pour faire bouger les lignes de nos business et combiner le meilleur des deux mondes. L'agilité de la start-up, l'innovation, développée à côté de l'industriel qui sait effectivement à quel marché s'adresser, quel client s'adresser, qui a toute une connaissance des différents marchés. Mmh. Et c'est cette combinatoire des deux qui permet effectivement aujourd'hui d'être performant pour le groupe et de pouvoir donner des opportunités de développement pour les start-up.
Patrice Slipowski, faire bouger les lignes de son business, bah c'est aussi du coup être plus flexible donc en externe. C'est ce que vous essayez de faire avec les startups, mais aussi en interne. Le but, c'est aussi de faire penser différemment, d'agir différemment. Aujourd'hui, il y a quelques initiatives d'intrapreneuriat, mais est-ce que les lignes sont de plus en plus poreuses entre ces deux écosystèmes?
Oui, si j'en juge ne serait-ce que par le nombre de projets d'objets connectés qu'ont mes collaborateurs
en interne.
Depuis qu'on leur a montré surtout ce qu'on voulait faire sur la plateforme DataVenue ou sur ce genre de choses, ça les stimule tous. Mais au-delà de ça, je pense que on a fait de l'open innovation avant même d'avoir le terme. Ça fait une dizaine d'années qu'on regarde ces sujets, qu'on cultive de la proximité, mais on a fait un certain nombre d'erreurs. On s'est trompé sur des voies, des façon de travailler et on a au fur et à mesure amélioré les choses et on a surtout on s'est laissé influencer, acculturer. Moi je viens d'une start-up, hein, j'étais entrepreneur il y a un peu plus d'une dizaine d'années, donc j'ai les deux ADN, l'ADN du grand groupe et celui de la start-up, et aujourd'hui je me sens parfaitement bien dans un grand groupe avec cette culture, parce que il y a eu de l'évolution, une évolution très très positive, qui fait que on a compris qu'il fallait respecter l'écologie de la start-up, qu'il fallait lui donner des moyens, qu'il fallait l'accompagner, qu'il fallait considérer que c'était une des plus belles occasions d'innover ensemble. Et ce mot écosystème qu'on prononçait tous tout à l'heure, il est tout sauf vain. Aujourd'hui, on ne fait plus des choses marquantes si on n'a pas réussi à emmener tout un tissu d'acteurs autour d'une solution, d'une plateforme. Et ça, c'est absolument essentiel.
Mais est-ce que ça commence à se comprendre dans des groupes qui justement sont implantés à l'échelle nationale avec de nombreuses filiales et qui, elles, ne touchent pas forcément à l'innovation ouverte, Jacob Hartung ?
Je suis absolument émerveillé par la qualité des gens que nous avons à l'intérieur de RDF, par la volonté de faire des choses, par les idées qu'ils portent. Il y a une volonté, finalement, d'innovation au sein de l'entreprise qui est assez fantastique. On parle souvent de la France comme une nation start-up. Il n'y a pas que les start-up qui ont des idées. Il y a énormément d'idées à l'intérieur de ces grands groupes aussi, à condition de les cultiver, à condition de leur donner la liberté. Et c'est ça aussi, cette acculturation, finalement, de leur donner les moyens de mener à bien des projets qu'ils ont, la volonté de faire des choses, de les libérer un tout petit peu, de les sortir potentiellement du carcan de l'entreprise dans son mode de fonctionnement. Et un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, c'est vraiment sur l'incubation d'un projet interne dans un environnement externe, et qui permet aussi de faire avancer ce type d'innovation à l'intérieur de l'entreprise.
Mmh. Bon, on pourrait continuer le sujet pendant longtemps. Malheureusement, on arrive au terme des 12 minutes, mais on en reparlera prochainement. Merci beaucoup tous les trois, Patrice Lipovski, chez Orange, Jérôme Toucheboeuf, La Poste, et Jacob Hartung de chez ERDF. Merci à tous les trois.
Merci beaucoup, et vous restez avec nous. L'atelier numérique se poursuit dans un instant sur BFM Business. Ce sera notre web stratégie. On va s'intéresser à la stratégie digitale de l'île de la Réunion. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, c'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, Rafi Aladjian, qui est le fondateur de Sense, mais aussi l'un des papas des objets connectés en France, sera notre invité dans cet atelier pour notre passion selon Sanette. Mais auparavant, notre web stratégie. Et avec vous, Aurore Giron, on va s'intéresser à la stratégie digitale de l'île de la Réunion cette semaine.
Alors aujourd'hui, pour notre web strat, nous nous sommes envolés du côté de l'île de la Réunion à l'occasion des 10 ans de l'événement Net Managers, qui regroupe chaque année pure players et entrepreneurs innovants du tourisme sur des problématiques web. Et cette année, l'accent était porté sur les next big things, ou plutôt ce qui risque de changer dans le domaine technologique dans les 10 ans et plus à venir. Alors pourquoi ce choix de l'île de la Réunion pour héberger l'événement ? Parce que tout d'abord, l'île de la Réunion, c'est plus de 400 000 touristes en 2014, et c'est également une destination particulièrement innovante. Et pour en parler, je suis aujourd'hui avec Ariane Loupi. Ariane, bonjour.
Bonjour.
Ariane est directrice de l'IRT, l'île de la Réunion Tourisme, qui est donc le comité régional en charge du tourisme sur l'île. Et avant de s'attaquer plus en profondeur à la stratégie digitale de l'IRT, pouvez-vous nous rappeler tout d'abord précisément les activités de l'île de la Réunion Tourisme ?
Alors notre cœur de métier, c'est la promotion de la destination Réunion en France et à l'étranger.
Du coup, vous accueillez cette année les 10 ans de l'événement Net Managers. Qu'est-ce qui explique selon vous plus particulièrement le choix de cette destination ?
Nous sommes allés pour la première fois donc assister à la 9e édition des Net Managers à Shanghai l'année dernière, avec pour objectif de décrocher le 10e anniversaire des Net Managers à La Réunion. Alors pourquoi ? Parce que La Réunion et l'IRT tout particulièrement a une politique de stratégie digitale assez agressive, et nous avons décroché des travel d'or. Donc le premier travel d'or a été décroché déjà pour l'application. Donc en termes d'innovation, nous avions fait l'unanimité du jury. Nous avons eu un deuxième travel d'or donc dans la catégorie office de tourisme pour le site internet, et c'est ce qui nous a donné envie en fait de décrocher la 10e édition des Net Managers à La Réunion, parce qu'on se veut être une destination hyper branchée, hyper geek, et donc on voulait montrer aussi que une île dans l'océan Indien, l'Europe de l'océan Indien, avait la capacité aussi d'accueillir un événement de telle envergure.
Très bien. Pouvez-vous me dire à partir de quand et comment avez-vous appréhendé le virage du numérique ?
Alors l'histoire a commencé en 2010, une nouvelle gouvernance au sein de l'IRT, une nouvelle dynamique aussi et une nouvelle stratégie de développement avec la création immédiate dès l'arrivée de cette nouvelle gouvernance d'un community manager, d'une structuration du service TIC, de nouvelles idées et donc avec vraiment l'intime conviction que le tourisme ne pouvait se développer qu'à travers des outils performants pour capter nos clientes qui sont, ben, vous le voyez bien, assez lointaines finalement. Nos marchés émetteurs sont très loin de chez nous. On se situe en destination long courrier. La France étant notre principal marché émetteur pour 80% de notre clientèle. Donc forcément, il fallait que l'on soit audacieux et que l'on puisse capter ces clientèles à travers de nouveaux outils. Aider nos prescripteurs également, donc agences de voyage, tour opérateurs, à finalement avoir de nouveaux outils pour démarcher leurs clientèle à leur tour.
Et j'ai vu que vous proposiez sur votre site 4 applications distinctes, donc c'est pas mal quand même. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'importance du mobile pour le tourisme dans votre région ?
Alors les études ont montré que 95% des touristes de toute façon passent par l'application mobile ou en tout cas prennent un choix de destination déjà à partir de leur mobile. Donc, bien évidemment, ce constat nous a amené à réfléchir à comment capter ces clientèles et on a eu l'idée de développer diverses applications. D'abord parce que pour désenclaver directement l'ensemble des prestataires réunionnais, que ce soit les activités de loisirs, les coins à visiter, que ce soit la partie hébergement. Donc la première application était pour recenser l'ensemble de l'offre touristique à La Réunion. Et donc de ce fait, pouvoir finalement rendre plus accessible, plus de façon intuitive et de façon aussi planifiée, puisqu'on peut chercher par zone géographique, on peut chercher par catégorie d'hébergement, diverses entrées dans cette application qui permettaient effectivement de toucher ces clientèles et de capter déjà l'attention. La seconde application qui était beaucoup plus ludique cette fois, encore plus ludique cette fois, c'était donc la photo 360. C'est une très belle application puisqu'elle permet de se mettre en situation, de théâtraliser un peu le voyage. On regarde par exemple le volcan. Donc on se balade sur le volcan, il y a des points d'alerte de géolocalisation, on clique sur les points d'information et on découvre le cratère d'Olomieu, on découvre ce que c'est que la lave, quel type de volcan nous sommes, etc. Donc allier l'information touristique directement à l'histoire de La Réunion. Donc on a fait ça pour les lagons, on a fait ça pour la plongée, on a fait ça pour les différentes activités et ça nous a donné l'idée l'année suivante d'aller un peu plus loin et donc de développer non plus la photo 360 mais la vidéo 360 qui permettait elle d'être vraiment dans une technologie complètement avancée et complètement immersive puisqu'on se situe dans la scène et on peut se balader sur la tablette ou sur l'iPhone ou Android, donc à travers tout un plan. On peut voir les vélos passer, on peut voir l'activité se dérouler, on peut voir les baleines, etc. Donc cette application a été vraiment un déclic pour nous puisqu'on a voulu aller encore plus loin. Donc on a des projets encore plus importants, mais peut-être que vous les avez découverts sur Top Resa cette année puisque on avait fait la présentation en avant-première des lunettes en 3D. On attend bien sûr que, on va dire que les lunettes se démocratisent pour pouvoir permettre un accès plus facile. Et donc, c'est une technologie aujourd'hui que nous maîtrisons et qui est prête à être développée complètement.
Et du coup, les lunettes 3D, le futur du tourisme ?
On espère en tout cas que ce soit le futur du tourisme parce que c'est important pour d'avoir une promesse et de savoir tenir cette promesse. Et aujourd'hui, quand on fait un choix de destination, quand on est un touriste, on ne veut pas se tromper sur la destination, surtout sur du long courrier. Donc forcément, c'est souvent des billets qui sont assez onéreux. Et du coup, quand on se transporte dans un endroit, on se dit « je vais vivre ça, ça me plaît, je veux y aller ». Et la promesse est tenue puisque quand on se retrouve dans ce lieu en particulier et que l'on retrouve ces sensations. On a bien sûr d'autres sens qui sont en éveil à ce moment-là et on retrouve cette situation et du coup la promesse est vraiment tenue. Donc là, l'IRT capitalise complètement. Le but pour nous, c'est de capter ces clientèles, mais évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est la venue de cette clientèle et je fais souvent le parallèle avec le rugby, c'est non pas de marquer l'essai, mais de faire la transformation derrière.
Une transformation qui se fait également par le biais des réseaux sociaux sur lesquels l'IRT semble particulièrement actif, ainsi qu'un blog lancé depuis septembre dernier sur son site web qui promeut l'île de la Réunion de manière un petit peu originale via des récits d'aventures de blogueurs et même des recettes typiques. J'étais donc pour cette webstrat avec Ariane Loupi, directrice de l'île de la Réunion Tourisme.
Aurore, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier sur BFM Business et ce sera notre passion selon Sanet. On va s'intéresser aux objets connectés avec Rafi Aladjian. À tout de suite.